craquer souvent.
Radio G, 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les pesticides, leur efficacité, c'est de tuer bien, vite et le plus possible. C'est en principe de ne tuer que ce qu'on veut tuer, mais ça va un petit peu au-delà. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne pas en utiliser. Ne pas en utiliser. C'est pourquoi il est aussi important qu'on fasse de l'agriculture bio, une agriculture qui continue à mettre des pesticides de synthèse, elle rentre dans le grand cycle qui fait qu'on en trouve partout. Même pour l'Homo sapiens, est-ce que ce qui compte, c'est est-ce qu'il l'empoisonne directement ? Mais même s'il n'est pas empoisonné directement, si ça bousille tout son écosystème, mais est-ce que ce n'est pas absolument fondamental, y compris pour sa survie ? Comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Ben, je pense que c'est pas vrai. Ce qui nous tue pas et qui bousille tout ce qui est autour nous rend beaucoup, 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 beaucoup plus faible. On est dans un univers qui doit se porter bien lui, pas pour que nous, qui doit se porter bien lui, point final. Si jamais il se porte pas bien, alors on peut se faire du souci. Et c'est ça, réellement, se poser la question de l'avenir de l'humanité.
Si la nature va mal, l'être humain ne peut pas aller bien. Or, c'est ce qu'on appelle un peu rapidement la nature qui permet à l'humain de respirer, boire, manger, de vivre. En détruisant son biotope, Sapiens Sapiens, qui malgré son nom ne semble pas savoir grand-chose, Sapiens est tout simplement amené à disparaître. Ben oui, on aura l'air fin quand on ne pourra plus boire ou respirer. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue dans cette nouvelle émission de ce cycle consacré à l'eau, toujours avec Gilles Deguay, que vous avez déjà rencontré et qui connaît très bien la question de l'eau douce. Alors on vous le rappelle, hein, Gilles est notamment membre historique de la CEPANT, Association d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine, elle-même membre de FNE, France Nature Environnement, Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Et c'est aussi au titre de représentant de FNE que Gilles siège au comité de bassin Loire-Bretagne avec des représentants de tous les usagers de la Loire, dont les agro-industriels. Gilles est donc un militant écologiste chevronné. On l'a déjà croisé autour des faucheurs volontaires d'OGM ou en manif contre les méga-bassines. Alors on vous le rappelle à nouveau, hein, les méga-bassines, ce sont ces absurdes et mortifères bassins de rétention d'eau mis en place par l'agro-industrie, notamment pour irriguer du maïs destiné à nourrir des bestiaux. Privatisation et vol de l'eau, ressource vitale et commune, pompée directement dans des nappes phréatiques déficitaires dès le printemps. Alors on va aujourd'hui à nouveau vous parler de la Loire qui passe par chez nous, mais la Loire à titre d'exemple pour parler de l'eau en général. Au cours des précédents épisodes, nous avons déjà beaucoup évoqué la question de la pénurie d'eau. Pénurie flagrante, notamment au cours de l'épouvantable été caniculaire 2022. On commence à être sérieusement confronté au réchauffement climatique. Mais question réchauffement, on n'a encore rien vu, ce n'est que le début. Ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est surtout des conséquences de décennies de délirantes et destructrices pratiques agro-industrielles. Les joies du réchauffement climatique commencent tout juste à s'ajouter à la destruction de notre biotope par l'agro-industrie. Après, au cours des précédents épisodes, avoir déjà évoqué la question de la pénurie d'eau douce, on va aujourd'hui avec Gilles survoler la question de la qualité de l'eau douce. Eau douce pourrie de mortels poisons agro-industriels se terminant en cides ou parfois en zates, comme glyphosate par exemple. C'est quand même bizarre, hein, cette épidémie de cancer qui frappe tout autour de nous. Mais d'où ça peut bien venir ? On en parle avec Gilles au cours de ce nouvel épisode de notre saga SOS H2O, au secours. Bonjour Gilles.
Eh bien bonjour.
On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, mais en l'occurrence là, dans le cadre de cette série sur l'eau. Dans un premier volet, on a évoqué notamment la question du Parlement de Loire et de la représentation juridique de la Loire devant les tribunaux des hommes, anthropocentrisme et morphisme.
Ce que j'ai développé, c'est que à partir d'éléments qui sont des éléments de comparaison, c'est de l'analogie. Il y a de l'analogie entre des situations qu'on rencontre et des civilisations humaines. Si on poussait l'analogie trop loin, on arrivait à des absurdités parce que ces éléments-là n'étaient pas transposables. En gros, l'analogie, c'est un très bon élément pédagogique, mais ce n'est pas forcément un très bon élément explicatif et programmatique. Voilà. Et c'est ce danger-là que je voulais mettre en avant, parce qu'on se heurte à des éléments évidents. Alors, je l'avais dit, notamment pour la valeur, toute la question de la valeur de la mise sur le marché, ça suppose que ça soit des éléments échangeables, parce qu'en théorie économique, on appelle valeur d'usage, valeur d'échange, et ce qui est évident, c'est que la nature, il n'y a jamais de valeur d'échange, parce que rien n'est échangeable contre un autre, et que ça avait conduit à ce que cette erreur d'analyse au départ, qui avait été utilisé de temps en temps pour dire mais regardez tout ce que ça nous coûte quand même, les conneries qu'on fait dans l'environnement, emmené à son terme avec l'idée que c'était du marché, ça conduisait à des absurdités comme la compensation, comme les marchés carbone, comme des éléments comme ça, qui sont fondamentalement des éléments qui s'opposent à la résolution des problèmes. Voilà. Donc c'était ça, c'est cette idée-là, et je continue de penser que sur une judiciarisation abusive de la nature, autant il fallait utiliser les tribunaux pour un certain nombre d'éléments comme éléments d'un rapport de force et que ça pouvait faire avancer la prise de conscience, autant si on le transformait et qu'on le portait à son comble, on risquait de se retrouver avec les mêmes impasses que pour la valeur. Voilà. C'est ça mon idée. Je pense qu'il y a... Il faut savoir utiliser ça intelligemment et ne jamais oublier que ça n'est pas explicatif, c'est seulement éventuellement démonstratif, etc. Et de conviction. C'est-à-dire ça peut permettre aux gens de comprendre à quel point ils peuvent y tenir, mais ça n'est pas opérationnel réellement en termes de lutte.
Donc merci pour ce résumé de cette première conversation qu'on a eue. Deuxième conversation, je t'ai lancé sur le thème de la sécheresse ou de la pénurie d'eau, et on va en revenir à ce que tu disais finalement sur cet usage du mot ressource, en l'occurrence ressource en eau, que tu n'aimes pas du tout, parce qu'une fois de plus, c'est de l'anthropomorphisme, de l'anthropocentrisme, et tu veux en développer là-dessus ?
Non.
Pas de résumé. Et pourquoi pas aujourd'hui parler de la qualité de l'eau ? Alors là, c'est pareil, on pourra en parler pendant des années, et je te propose un exercice de synthèse un peu compliqué, déjà survoler cette question en une heure. Est-ce que c'est possible ?
En gros, quand on parle de qualité de l'eau, c'est parce qu'on a introduit dans de l'eau des éléments qui, en principe, n'y sont pas, en tout cas pas dans ces quantités, et qui sont des poisons ou des éléments qui perturbent très gravement le milieu, enfin des éléments dits de pollution. Et donc, les pollutions qu'on trouve dans l'eau, commençons par les rivières et les milieux aquatiques terrestres, mais on retrouve un peu les mêmes dans les mers, c'est fondamentalement deux grands types. C'est ce qui est des nutriments, des engrais, ce qui a été mis dans le sol pour aider à la croissance des plantes.
C'est ce qu'on appelle aussi des intrants.
On appelle intrants tout ce qui entre. Okay. Les intrants, c'est les deux à la fois. Alors, on va dire, d'un côté, les engrais, et de l'autre côté, les cides, les pesticides. Tout ce qui est fait pour tuer, et qui fait son œuvre, mais qui, des fois, tue un peu au-delà de ce qu'on espérait au départ. Voilà. Et qui est, en général, et c'est assez normal, dangereux pour la vie, y compris pour la vie humaine et pour la vie aquatique. Il y a deux grands secteurs. Donc, dans le premier secteur, en gros, on tourne autour de l'azote et du phosphore. Et de l'autre côté, on tourne autour de tout ce qui est encide, c'est-à-dire pesticides, c'est-à-dire fongicides, insecticides, herbicides, etc. Tous ces trucs-là qu'on introduit dans la nature pour donner un avantage comparatif à ce qu'on veut cultiver. Sauf que dans les faits, ça a des effets secondaires absolument énormes et que vraisemblablement, on peut attribuer la baisse de la biodiversité dans nos pays, je rappelle, est importante, hein, puisqu'on est sur des pertes pour un certain nombre d'espèces, grosso modo autour de plus de 40%. Ces pertes-là sont en grande partie imputables à la présence de ces pesticides dans l'environnement. Voilà, ces deux éléments-là. On prendra l'affiche qui est derrière toi, là.
Qui est une grande affiche. Bonnes vacances. On voit un enfant sur une plage pourrie d'algues vertes. L'élevage industriel des porcs et les engrais génèrent des algues vertes. Leur décomposition dégage un gaz mortel pour l'homme. Agissez avec nous, France Nature Environnement.
C'est une affiche qui a fait scandale. Elle est sortie en 3x4 sur les murs du métro à Paris, je pense une semaine avant un salon d'agriculture.
Ça, c'est plutôt phosphate, ce problème-là, non, hein. Alors, on rappelle, hein, qu'il y a une poignée d'années de ça, un cavalier, me semble-t-il, avait été intoxiqué, lui et son cheval, par des gaz émis par ces algues vertes.
Alors, bon, prenons cette histoire d'algues vertes. Ce qu'on met en général comme engrais, c'est grosso modo des phosphates et des nitrates. Les phosphates et les nitrates, il y en a naturellement dans le sol. C'est le fait d'en ajouter qu'on a ramené de façon artificielle qui fait qu'il y a tout d'un coup de la nourriture en trop. Et on dit que le milieu est eutrophe, c'est-à-dire qu'il a trop de nourriture. Les deux molécules, phosphate ou nitrate, ont un effet de pouce sur la nature. Après, sur ce qui est des algues vertes, on distingue lequel est l'élément déclenchant ou pas. Donc, traditionnellement, ce qu'on dit, c'est que dans les eaux douces, c'est le phosphate qui est déclenchant, c'est-à-dire qu'il y a des nitrates naturellement, et puis en plus, les algues vertes qui sont dans l'eau sont capables de synthétiser l'azote de l'air pour se procurer l'azote dont elles ont besoin, et par conséquent, c'est pas l'apport de nitrates qui les fait se développer, puisqu'elles ont le moyen de le capter toutes seules, c'est l'apport de phosphate qui déclenche le boom. Et dans la mer, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des phosphates en assez grande quantité dans le sol et qui est remis en mouvement par la mer régulièrement, et par contre, ces algues-là ne sont pas capables de transformer l'azote de l'air en azote ingérable par elles, et c'est donc l'apport de nitrate qui provoque l'explosion, qu'on appelle bloom, de ces algues-là. Alors, je vais résumer, hein. Ce qui provoque les blooms, c'est une augmentation de température qui permet l'arrivée de ces algues, et un excédent de nitrate dans le cas des algues en milieu maritime. Elles sont apparues, ces algues vertes. Alors, dans les retenues d'eau douce, elles sont apparues il y a très très longtemps. Il y a des barrages, il y a notamment le barrage de Villeray sur la Loire, qui a vu apparaître des paquets d'algues. Et je rappelle, à ce moment-là, c'était plutôt les phosphates qui étaient déclencheurs. D'une certaine manière, on a gagné plus vite sur la question des phosphates, parce qu'une partie des phosphates était d'origine agricole, mais une grosse partie aussi tenait à l'utilisation des lessives qui étaient aux phosphates. Et là-dessus, le progrès est passé, c'est-à-dire que pratiquement, il n'y a plus de lessives aux phosphates, ce qui fait qu'on a moins de phosphates dans les rivières et qu'on a un peu limité, mais un peu seulement, les proliférations d'algues dans les lacs d'eau douce. Alors, pourquoi un peu seulement ? Parce que il y a des effets d'inertie considérables, c'est-à-dire que les phosphates qui étaient dans le lac, ils se sont déposés sur le fond. Il y a à un moment, ça se remobilise un petit peu et on les retrouve quand même, au bout d'un temps. Il va falloir un petit moment avant de s'en débarrasser complètement, mais en tout cas, le phénomène de ce côté-là n'a pas réellement empiré. Il y en a d'autres qui ont empiré, hein, mais pas celui-là. Alors par contre, dans les eaux de mer, on a progressé petit à petit et en gros, on est arrivé pour chacune des petites zones où il y a des algues vertes, les petites baies de la Bretagne, on est arrivé à des concentrations en nitrate à partir desquelles apparaissent le bloom. C'est-à-dire qu'on sait, en gros, que dans telle ou telle baie, si la concentration en nitrate de l'eau qui arrive de la terre dans la baie est supérieure à 15 mg par litre, eh ben, on aura un développement d'algues vertes. Et ces seuils-là dépendent de chaque baie. Mais en gros, c'est toujours aux environs de 15, mais des fois c'est moins que ça, hein, c'est 10 ou 12. Dans la nature, on estime que on arrive à des concentrations de 6, 7, mais jamais même ça, même 10, 12. Hein, je rappelle que pour l'eau potable, c'est 50. Hein. Donc, on sait ça. On sait qu'il faut arriver à pas plus que ça, et que vraisemblablement, si on n'arrive pas à plus que ça, on arrivera à se débarrasser des explosions d'algues tous les étés. Ça fait maintenant, on doit en être rendu au début du deuxième ou troisième plan algues vertes, et on a réussi à faire baisser les concentrations de nitrate, mais on était dans des endroits tellement hauts que bah, quand on est à 60 mg par litre, on diminue de moitié, on estime que c'est un effort considérable, on est quand même encore à 30 mg par litre et on a des algues vertes. Et c'est ça qui se passe. Je crois que c'est en 2021, on a eu la plus grosse extension d'algues vertes qu'on ait eu depuis qu'on l'observe. Et donc, eh ben, malgré le fait qu'on ait baissé probablement quelques concentrations en nitrate, ça ne suffit pas. Et on sait qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et franchement, c'est pas sûr qu'on en prenne le chemin. Mais alors, en même temps, bon, les Bretons et particulièrement les agriculteurs bretons disent « Mais on a quand même fait d'énormes efforts. » Ben oui, mais d'énormes efforts quand on est à des concentrations aussi gigantesques, eh ben, c'est des énormes efforts qui ne suffisent pas. Hein. Et donc la question n'est pas de savoir si vraiment on a fait des efforts énormes ou pas, c'est est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas. Et il y en a. Il y en a toujours, des algues vertes, et ça signifie que le milieu est gravement perturbé par des nitrates. Toujours sur les nitrates pendant qu'on y est, hein. Donc il y a les atteintes au milieu, qu'on a oublié pendant un certain temps, il faut qu'il y ait des algues vertes pour qu'on se rende compte qu'il y a des atteintes au milieu. J'ai oublié de dire, j'ai parlé des petites baies bretonnes, mais on peut aussi parler des estuaires des fleuves. Les estuaires des fleuves, il y avait une étude qui avait été faite il y a, je sais pas, 7, 8 ans, 10 ans peut-être, qui expliquait que si l'eau qui sortait de la Loire dépassait, je crois que c'était 11,6 mg par litre, alors on produisait un risque d'explosion de Bloom à Pornic, c'est-à-dire à l'endroit où arrive la flotte de la Loire. Et pour chaque fleuve, on a ça. Alors, plus on est au sud, donc plus il y a de température, plus le niveau déclencheur de nitrate est bas, parce qu'il suffit d'un peu moins de nitrate pour arriver à quand même déclencher le bloom algal. Mais grosso modo, sur toute la côte, on est dans des eaux où les seuils sont comme ça, entre 20 et 10. Quoi. Ça, c'est pour les atteintes sur la mer. Pour ce qui est des atteintes dans les rivières, probablement, le point sensible en ce moment, c'est ce qu'on appelle les cyanobactéries, qui produisent des espèces de trucs filamenteux, qui ne sont pas des algues, mais qui ressemblent à des algues en filamenteux, plutôt un peu bleutées, qu'on trouve partout, et qui, elles aussi, sont en tout cas mortelles pour les chiens qui vont se balader, mais donc vraisemblablement aussi un peu dangereuses pour les hommes. Pour les algues vertes elles-mêmes, on sait qu'il y a eu un certain nombre de morts, ça figure dans des textes qui sont pas contestables, il y a eu un certain nombre de morts, et puis ça oblige aussi, alors pour les algues vertes, pratiquement toutes les villes des côtes concernées se sont munies de services de ramassage, on va les chercher et tout, donc on les voit moins, mais on les voit moins pas parce qu'il y en a moins, c'est parce que dès qu'on les a trouvés, on les enlève, et le risque c'est que leur décomposition dégage alors déjà de l'hydrogène sulfuré et manifestement des gaz qui ont des conséquences sur la santé, ça très clairement. Alors, j'étais sur la côte, je reviens sur les rivières. Quand il y a prolifération de cyanobactéries, les préfets envoient systématiquement des avertissements, alors des interdictions de baignade, ça va de soi, mais en plus des avertissements sur les animaux domestiques, il faut faire attention, etc. Et tout, voilà. Ça, c'est nitrate.
Ces nitrates, donc, ils sont utilisés dans l'agriculture industrielle. C'est des produits qui sont mis sur des cultures. Et quel est le rapport avec les élevages industriels, là? Parce qu'on a beaucoup parlé d'algues vertes et de Bretagne. Or, d'après ton exposé, on voit que c'est pas seulement qu'en Bretagne. Ils viennent d'où, ces nitrates?
Alors, Un petit peu de chimie, mais je ne suis pas totalement spécialiste. L'azote, c'est dans l'air. 60% de l'air, c'est de l'azote. L'azote, il existe dans l'environnement sous deux formes un peu opposées, en combinaison avec des atomes d'hydrogène. Et dans ce cas-là, ça donne des formules NH3, etc. C'est l'ammoniac. Soit en comparaison avec des atomes d'oxygène. Et donc, dans ce cas-là, ça donne des oxydes de toutes sortes. Alors, ces oxydes, c'est les plus oxydés, c'est NO3, c'est des nitrates. NO2, c'est des nitrites. Et puis, il y a un oxyde un peu particulier et qui doit être le peroxyde d'azote, si je ne me trompe, qui est de formule N2O. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, mais il y a beaucoup d'hydrogène dedans. Et cet oxyde-là, il a une particularité intéressante, c'est que c'est un des plus forts gaz à effet de serre qu'on connaisse. C'est-à-dire que son effet radiatif, il doit être, je pense que c'est 250, peut-être bien 270 fois plus que le CO2. Et donc, c'est un énorme gaz à effet de serre. Et pendant longtemps, je cherchais des trucs pour savoir ce qui produisait particulièrement ça. Ils sont produits un peu naturellement. C'est des nitrates nitrites qui se désoxydent petit à petit, qui se réduisent petit à petit et qui devraient arriver jusqu'à la forme gazeuse, hein, qui, elle, n'a pas d'inconvénient, heureusement d'ailleurs, parce que comme on baigne dans 60% d'azote, ça serait grave. Et c'est cette réduction partielle seulement qui produirait le peroxyde. Ce qui me paraît maintenant, et je crois que c'est à peu près établi certain, c'est que c'est essentiellement l'épandage d'azote industriel qui produit ces éléments-là. Et donc, il y a bien un effet direct entre le fait d'introduire de l'azote industriel sur les sols qui produisent ça. Qu'est-ce que c'est que de l'azote industriel ? Eh bien, c'est qu'on a réussi, alors je crois que c'est au début du XXe siècle, on a réussi à synthétiser des nitrates à partir de l'oxygène et de l'azote de l'air. Alors on voit bien qu'il faut probablement il faut de la catalyse un peu importante, etc. et tout, et que c'est pas évident et que ça demande pas mal d'énergie pour y arriver. Mais donc, à partir des deux composants de l'air, l'azote et l'oxygène, on arrive à produire ces nitrates. Mais c'est évidemment, c'est un phénomène totalement artificiel et qui n'existe pas réellement dans la nature. D'accord ? Par contre, il y a des plantes qui sont capables de capter l'azote de l'air pour le transformer en nitrate. C'est en particulier les légumineuses, la luzerne, etc. Et tout. Et c'est ça le cycle naturel et normal de l'azote qui fait qu'il y a de l'azote pris dans l'air, qui est renvoyé dans le sol, qui est utilisable par les plantes parce que c'est important pour sa croissance. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que l'azote est important pour la croissance des plantes. Après, il y a des phénomènes dans le sol de dénitrification et il y a relargage d'azote et éventuellement un petit peu de protoxyde d'azote au niveau naturel. Mais ça, c'est un cycle naturel. Et comme pour le carbone, d'une certaine manière, on a introduit, à partir du moment où on a fait la synthèse de l'azote et de l'oxygène pour produire des nitrates, on a introduit d'un seul coup une modification du cycle de l'azote en mettant dans ce cycle-là des quantités de nitrates qui n'y étaient pas auparavant. Et cet élément-là produit notamment les effets sur le gaz à effet de serre vraisemblablement, et puis ça produit aussi des dérèglements du milieu parce qu'il y a une quantité d'azote très excédentaire par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Ça explique qu'il y ait beaucoup plus d'azote qu'il y en avait auparavant dans les rivières. Il y avait de l'azote dans les rivières puisque c'était le cycle normal. Simplement maintenant, on l'a multiplié vraisemblablement, dans certains cas, par presque 10, quoi. Donc, évidemment, c'est un engrais, hein. Donc, ça permet de pousser plus, mais ça permet à tout de se dérégler. Et donc, après, on se retrouve avec les phénomènes qu'on trouve, c'est-à-dire, on n'a pas mis l'azote pour que ça fasse des algues vertes, mais c'est quand même ça que ça fait au bout du compte, quoi. Voilà. Voilà. Azote, ça va à peu près. Je ne sais pas précisément comment ça fonctionne sur le rythme du phosphore. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on a mis à un moment du phosphore en surplus et que ce n'est pas une très très bonne idée. Ce que je crois pouvoir dire aussi, c'est que sur l'élevage, on a dit longtemps, et je pense que c'est vrai, que ça produisait plutôt du phosphore. J'imagine que le nitrate qui est envoyé là est plutôt lié au fait qu'on l'a utilisé dans des cultures et que ça s'est retrouvé dans le sous-sol après. Mais ces cultures pouvant elles-mêmes être liées à de l'élevage, puisque maintenant en France, l'élevage est quand même très souvent lié au fait d'avoir des cultures dédiées, et ces cultures dédiées pour lesquelles on utilise aussi des nitrates. Voilà, nitrate, phosphate, je crois qu'on a à peu près fait le tour de cette question-là. Je vais juste refaire toujours les précautions que j'ai prises auparavant. Il y a des spécialistes de tout. Et sur toutes ces questions-là, il y a des gens qui diraient certainement des choses. Moi, je suis plutôt du genre qui essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, tout ce que j'ai dit sur la chimie, ça correspond à peu près à un niveau bac plus 1 ou quelque chose comme ça. Hein. Je ne crois pas avoir dit d'énormes conneries. Si j'ai dit des trucs un peu imparfaits, c'est possible. Mais grosso modo, quand même, c'est qu'il y a bien eu une révolution d'utilisation de l'azote comme engrais, d'azote artificiel, sachant qu'il existe des formes d'azote naturelles dont j'ai parlé, par exemple les légumineuses, un certain nombre de choses qui font partie d'un cycle et qui ne modifiaient pas trop le cycle et qu'on l'a modifié de façon très très importante, ce qui explique les phénomènes d'eutrophisation. Voilà. Pour résumer un peu les choses, ce problème-là existe bien. C'est vrai que l'azote est nécessaire pour la croissance, y compris probablement la croissance des humains, j'imagine, mais que, bah, c'est ce qui se passe tout le temps dans la nature, c'est que si on est au-delà de l'équilibre qui était créé, eh ben, on crée des déséquilibres qu'on paye partout. Donc, c'est pas parce que l'azote aide à pousser que si on met de l'azote partout, on a résolu les problèmes de l'humanité. En gros, c'est autour de ça qu'on tourne.
Toujours avec Gilles Deguay autour du thème de la qualité de l'eau, tu as rapidement évoqué donc le problème des nitrates, phosphates et phosphores. On passe aux pesticides.
Allez, on prend les pesticides. Pesticides, pourquoi on appelle ça des pesticides? Alors, il y a déjà un débat sur les termes. Les environnementalistes n'utilisent pas d'autres termes que pesticides. Et c'est facile à expliquer pourquoi. Parce que site, c'est fait pour tuer. Je rappelle, fongicide, c'est pour tuer des champignons, herbicide pour tuer de l'herbe,
fratricide pour tuer les frères,
absolument,
etc.
Absolument, parricide et tout, oui, mais tout ça fonctionne. C'est bien la même racine et c'est bien pour tuer. Et il vaut mieux le savoir, quoi. D'ailleurs, c'est pas. Alors, l'autre terme, c'est phytosanitaire. Alors, phytosanitaire, c'est génial, c'est pour la santé des plantes, c'est extraordinaire. Donc, on met des machins qui sont explicitement des trucs qui tuent des plantes et on dit que c'est pour leur santé. Alors, c'est pour la santé des autres, bien sûr, hein, mais c'est intéressant de comprendre ce paradoxe-là. Phytosanitaire, c'est extraordinaire. Phytopharmaceutique, même, des fois, hein, et tout, pour que ça soit encore plus... J'ai phyto, c'est des plantes, c'est génial, et tout, bon. Ah. Mais quand même, à chaque fois, c'est quand même des trucs qui sont faits pour tuer les insectes, tout ce qui passe et qui est censé nuire à la plante. On est rendu à des niveaux où il y en a vraiment partout. Imaginez qu'on va s'en débarrasser, si, il y a quand même un peu de l'usure, il y a un peu tout ça et tout. Mais si on prend déjà le fait que dans l'usure d'un certain nombre de ces molécules, il y a d'abord qu'elles se détruisent, elles se transforment, elles donnent des produits dérivés, et que les produits dérivés, des fois, sont aussi dangereux, voire plus que la cellule de base, on voit bien qu'avant qu'on s'en soit débarrassé, c'est-à-dire que les dérivés se soient eux-mêmes dérivés et qu'on soit arrivé à ce qu'ils soient suffisamment cassés pour qu'ils soient inoffensifs, on risque d'en avoir pour un petit moment. Voilà.
Je crois avoir entendu avec effarement à la radio, j'étais pas bien réveillé, mais qu'on avait retrouvé des traces de pesticides dans le sang d'un nouveau-né de quelques heures, via la mer, enfin, et le cordon ombilical, etc. C'est-à-dire que ça fait même pas quelques heures qu'on peut respirer sur cette planète, qu'on en a déjà dans le cornet.
Le problème, c'est qu'en gros, il y en a partout. Il y a un certain nombre de ces produits qu'on retrouve au pôle, quand même, hein, où personne ne les a disséminés. On en retrouve, hein, dans le sang, dans la chair d'animaux dont on n'imaginait même pas qu'ils pouvaient être atteints. Et donc, oui, on est des animaux comme les autres, on en a partout. Il y a eu des éléments d'analyse, alors je sais que certains syndicats agricoles le contestent, mais sur le glyphosate par exemple, il y a eu des séries d'analyses qui ont été faites sur des gens qui étaient pris plus ou moins au hasard, même des fois qui étaient pris comme étant plutôt des gens qui mangeaient du bio, voilà. On a trouvé du glyphosate, on a trouvé la trace d'existence du glyphosate chez pratiquement tout le monde. Donc c'est un élément totalement généralisé et extrêmement important. On sait que c'est un problème. Et donc, il y a des plans qui ont été faits pour l'empêcher. Il y a en particulier un plan qui s'appelait Ecophyto, qui est un plan qui a été lancé il y a, je sais pas, peut-être bien pas loin d'une quinzaine d'années. C'était lancé après le Grenelle de l'environnement. Et donc, le plan, c'était, on va se donner comme objectif, de réduire l'utilisation des phytosanitaires, donc des pesticides, de moitié. Probablement pas suffisant, mais quand même déjà relativement volontariste. Bon. Au bout d'une dizaine d'années, Moi, je suis allé à des bilans de ça, où on en était, où on disait « Ah, ça a un peu baissé cette année, mais c'est bizarre, mais on va voir, ça va remonter. » Puis au bout du compte, on a fait le bilan. Au lieu d'avoir divisé par deux, on avait augmenté de 20%. Donc quand on fait un plan pour se débarrasser de produits qu'on a décidé qu'on allait diviser par deux, et qu'après avoir dépensé pas mal d'argent quand même sur ces plans-là, on se retrouve à avoir 20% de plus de ces produits qu'on en avait auparavant, je crois qu'on peut dire que c'est un échec du plan quand même. Alors on a constaté que c'était un échec du plan, et le ministère, ça devait être Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a décidé qu'il y avait vraiment un problème, qu'il fallait donc lancer un nouveau plan éco-phyto, qui allait avoir comme objectif de réduire de moitié, qui utilisait exactement les mêmes leviers que le précédent, et qui repartait de moitié, mais à partir de l'endroit où on commençait, c'est-à-dire 20% de plus du précédent. Donc on peut imaginer que comme ça, avec 20% de plus à chaque fois, au bout d'une vingtaine de plans éco-phyto, on aura doublé, quoi, hein, grosso modo. Même bien avant, parce que 4 ou 5 suffiraient. Bon, bref, ça ne marche pas. Clairement, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. On le voit même sur des éléments d'analyse plus fines. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des pesticides qui ont été interdits. Il y en a. Le DDT, par exemple, on sait qu'il a été interdit. Le chlordécone, mais on rappelle, sauf en Martinique et en Guadeloupe, on a attendu 4 ans de plus. Il y a d'énormes retards et d'énormes reculs, mais il y a quand même des éléments qui sont interdits. L'atrazine, je pense que c'est un herbicide. En tout cas, c'est un pesticide qui est lié à la culture du maïs, a été interdit. Et en principe, on devrait plus en trouver. Bon. Il se trouve que certains de ces produits qui sont interdits, alors on en retrouve encore dans le sol, mais ça c'est parce qu'il y a une forme d'inertie. On en retrouve dans l'air, des fois aussi, parce qu'il se trouve qu'il y a des organismes qui sont mis à le tester dans l'air, en particulier tous les organismes du genre Ligère, etc., tous les organismes, les ASCA, les associations de surveillance de la qualité de l'air, ont essayé d'aller regarder si on les retrouvait dans l'air. Et on les retrouve. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des pesticides qui sont spécifiques d'une culture qu'on retrouve quand même à 20 ou 30 kilomètres. On retrouve des pesticides dans les villes où ils ne sont pas particulièrement utilisés. Donc il y a vraiment une dissémination très très importante. Il y a une dissémination dans l'eau aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que certains de ces produits, quand on les retrouve dans le sol, on peut dire que c'est l'inertie, mais quand on les retrouve dans l'air, là, il n'y a pas d'inertie. Ça, ils ont été mis dans les deux années précédentes. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une inertie dans les hangars. C'est-à-dire qu'il y a aussi des stocks qui ressortent, qui continuent encore longtemps. Donc, tout ça pour dire que quand il y a un vrai scandale, quand on a vraiment analysé, qu'on sait que le produit pose des problèmes, on finit par en obtenir l'interdiction. L'ennui, c'est qu'il en sort un autre. Et que donc maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a les vieux qui restent, et puis les nouveaux qui remplacent les vieux, et qu'au bout du compte, on se retrouve, en tout cas là en ce moment dans le bassin Loire-Bretagne, on se retrouve avec pratiquement plus de rivières qui ont des pesticides de façon relativement importante dans leurs eaux qu'on n'en a jamais eu. Et donc, c'est un problème qui n'est même pas en voie de résorption. Il y a des fois où on dit « ça ne va pas assez vite, c'est encore trop grave », ce que j'ai dit sur les nitrates. Mais il y a un peu de résorption. Sur les pesticides, non. Sur les pesticides, il y a la résorption de certaines molécules, mais il y en a d'autres qui apparaissent, et au bout du compte, on se retrouve avec plus de pollution. Alors il y a un autre phénomène qu'on cite souvent, mais je ne le conteste pas, hein, c'est qu'on en cherche plus. Et souvent, dans les questions de pollution, on trouve que ce qu'on cherche. Si on cherche beaucoup, on trouve plus que si on ne cherche pas. Donc, oui, on en cherche plus maintenant qu'on en cherchait auparavant. Mais dans ceux qu'on cherche, il y en a. Alors, en particulier, je crois que c'est métolachlore, ça s'appelle. C'est des métabolites. C'est-à-dire, quand le produit se défait, on appelle ça un métabolite. Hein, les produits dérivés qui résultent du fait que la molécule a été cassée en plusieurs, ça s'appelle des métabolites. C'est des métabolites de pesticides utilisés notamment pour remplacer l'atrazine, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ces métabolites, ils n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Ils existent maintenant, on les trouve. Alors on les trouve parce qu'on les cherche, mais on les trouve aussi parce qu'ils y sont alors qu'ils n'y étaient pas avant. Donc c'est pas tout à fait vrai que l'augmentation de ce qu'on trouve dans les rivières est entièrement liée au fait qu'on en cherche plus. En gros, c'est pas que le thermomètre. C'est aussi la réalité, puisqu'on sait que dans les produits qu'on trouve en plus, il y en a qui n'existaient pas auparavant. Donc en gros, on a un cocktail. Il y a toute une théorie sur l'effet cocktail de ces poisons-là, c'est que l'effet de deux poisons combinés est des fois largement supérieur à la somme des effets de chacun des deux. Et donc, ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire qu'on obtient une toxicité bien supérieure à ce que ça serait simplement si on les jetait. Donc, ces éléments-là, donc les éléments, l'effet cocktail, la présence de molécules de plus en plus, on est dans une situation où je crois qu'on peut dire que ça ne s'améliore pas, et même ça empire. Et ça, c'est sur des sujets environnementaux. On a quand même fait pas mal d'efforts, et c'est probablement un des rares endroits où, effort ou pas, ça empire. Ouais.
Juste pour revenir rapidement sur l'effet cocktail, il me semble qu'on m'avait expliqué au sujet des incinérateurs où on peut brûler tout et n'importe quoi, qu'on peut même fabriquer à l'insu de son plein gré des poisons peut-être encore inconnus ou qu'on pas de nom.
Ben, en gros, dans les incinérateurs, alors pareil. Hein,
D'ailleurs, je peux revenir aussi sur une catastrophe type Lubrizol. Il y a plein de produits chimiques qui sont mis ensemble, etc., et qui, en brûlant ensemble, fabriquent, voilà, effet cocktail.
Sur les questions de l'incinérateur, c'est des dérivés. Si je ne me trompe, c'est des dérivés avec des carbones 6 là, qui doivent être des dérivés du benzène, hein, pour aller vite, mais c'est des dérivés carbonés avec des atomes de chlore. Alors furane, dioxine, etc., je pense que tous ces produits-là sont, alors c'est des catégories différentes, mais c'est les éléments effectivement très, très toxiques qui sortaient des incinérateurs, et c'est bien des combinaisons avec des atomes de chlore et des atomes de carbone agencés de façon plus ou moins différente. Oui, l'élément intéressant de celle-là, c'est que ces produits-là, on en retrouve absolument partout. C'est eux qu'on trouvait dans les lacs de Laponie, etc. et tout, on les retrouve partout. On ne les a pas fabriqués pour. C'est-à-dire, c'est le résultat d'une combinaison et tout. Et donc, on imagine que quand on crame quelque chose à Lubrizol, ça peut produire des tas de machins qu'on ne maîtrise pas trop. Là, en l'occurrence, les pesticides, on les a quand même fabriqués spécifiquement. Leur efficacité, c'est quand même, encore une fois, de tuer bien, vite et le plus possible. C'est en principe de ne tuer que ce qu'on veut tuer, mais grosso modo, ça va un petit peu au-delà. Et donc, on retrouve les conséquences là. Simplement, il y avait la fameuse loi REACH qui est sortie dans les circulaires européennes à un moment, et qui pointait le fait que la recherche de toxicité va moins vite que la recherche qui met les choses sur le marché. Et qui fait que, par conséquent, l'analyse et donc la possibilité de sortir un certain nombre de molécules du marché va moins vite que la création. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est-à-dire qu'on a une accumulation de molécules qui ne sont pas encore contrôlées. Quand elles le sont, en général, on voit qu'il faut faire quelque chose et on les interdit. Mais pendant ce temps-là, ils en ont produit deux autres qui sont plus graves et qu'on n'a pas détecté. On a vraiment ce problème-là. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. À chaque fois qu'on en discute, moi, je dis, moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne pas en utiliser. Et donc, on va boucler là-dessus. Donc c'est pourquoi il est aussi important qu'on fasse de l'agriculture bio et pas tous les autres machins qui se tournent autour et qui continuent à avoir des pesticides, parce qu'une agriculture qui continue à mettre des pesticides de synthèse, de toute façon, elle rentre dans le grand cycle qui fait qu'on en trouve partout.
Par machin, entre la chèvre et le chou et tout ça, quand on évoque par exemple ce qu'on appelle la culture raisonnée, c'est-à-dire j'en utilise mais juste ce qu'il faut.
C'est marrant parce qu'il en sort un tous les 10 ans, ça. Donc on a eu la culture raisonnée. Alors on a ironisé sur la culture raisonnée qui faisait... Mais le but était toujours le même, hein, c'était dire qu'on fait des efforts mais continuer à utiliser. Maintenant on a HVE. Haute valeur environnementale. Et pratiquement, il y a eu un moment où les lobbies avaient pratiquement réussi, et peut-être que c'est pas encore fini, à mettre un signe égal entre agriculture bio et HVE. Par exemple, sur les algues vertes, il y a un rapport de la Cour des comptes qui explique que peut-être que si on veut vraiment avoir la peau des algues vertes, si on continue à favoriser HVE, il faudrait peut-être introduire dans HVE des règles plus strictes que celles qu'il y a en ce moment sur la question des nitrates. Plus strictes, c'est vraiment un euphémisme, quoi. Au point où on en est, il faut arrêter de penser que
Il suffit de gagner un peu et tout, on se fait déborder par le fait que de toute façon, il y a un autre endroit où ça va augmenter et tout. Il faut vraiment prendre des mesures qui sont un peu à la hauteur de la situation.
Alors, on vous l'a dit, avec Gilles, nous nous sommes rencontrés devant le tribunal de Tours en 2012. Gilles et d'autres voulaient alors volontairement comparaître en tant que faucheurs volontaires de maïs OGM. Ce qui m'a rappelé la chanson qui suit, signée « La Parisienne libérée ».
Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais. Tu dis que mon maïs est bêta, alors que c'est toi les bêtés. Tu dis que mon maïs marche pas, mais l'essayer, c'est l'adopter. La preuve, au beau milieu d'un champ, j'ai rencontré un papillon qui récitait en titubant un petit message d'information. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais.
Les pesticides, a-t-il été avéré qu'ils ont des conséquences néfastes sur la santé de Sapiens Sapiens ? Ou est-ce que nous sommes d'épouvantables obscurantistes opposés à tout progrès et qui ont peur de leur ombre? Parce que j'ai entendu certains exploitants des tenants de l'agriculture industrielle me dire devant le palais de justice de Tours, on s'est vu pour une autre affaire qui concernait des cultures OGM. Bon voilà, un exploitant agricole industriel m'a soutenu que c'était de la chimie fine et d'ailleurs que pour soigner le propre cancer que lui-même avait développé, on avait d'ailleurs aussi utilisé de la chimie fine et probablement que son cancer n'avait absolument aucun rapport avec les glyphosates qu'il utilisait pour ses propres cultures. Alors, tu noteras la perfidie de ma question.
Mais je note la perfidie de ta question. Bon, il y a des organismes qui déclarent que les produits sont cancérigènes avérés, probablement cancérigènes, etc. Et chacun de ces termes est strictement mesuré. Donc, il faut le prendre tel quel. C'est reprotoxique, MR, c'est cancérigène, mutagène et reprotoxique, c'est CMR. En général, les trois vont ensemble. Et puis, on a des analyses sur ces questions-là. Il a commencé à y avoir des gens qui ont gagné contre Monsanto pour avoir utilisé des cuves dans lesquelles il y avait des produits de Monsanto et pour avoir été malade de ça. Voilà, bon, il y a eu expertise, il y a des gens qui ont été condamnés pour ça. Donc, oui, il n'y a pas de doute. Voilà. En plus, on connaît tous, et moi j'en ai eu aussi, des agriculteurs qui venaient me voir en me disant « Quand on pense à toutes les saloperies qu'on a mis, on a un peu honte quand même de temps en temps, etc. Et » Oui, voilà, les agriculteurs le savent. De toute façon, il y a évidemment plein de maladies professionnelles chez les agriculteurs qui sont liées à ça. Enfin bon, les gens qui ramassent des maladies comme du Parkinson ou des choses comme ça, il y a des taux, je veux dire, les gens le savent. Bon. Mais en plus, franchement, c'est normal, je veux dire, des machins qui s'appellent pesticides, insecticides, machin et tout, que ça ait un peu de conséquences sur la santé humaine, c'est pas tellement anormal. Donc il y a des éléments scientifiques avérés. Produit par produit, il y a toujours des éléments d'incertitude, parce que c'est très compliqué d'arriver à savoir. Un cancer, il peut arriver 20 ans après l'exposition. Les cancers de l'amiante, on les a découverts, mais extrêmement tardivement. Bon, il y a des gens qui le savaient avant, on a continué pendant un bon moment, mais il faut un vrai travail. Ça se fait en plus sur des éléments de la médecine où soit on essaye de regarder si la molécule produit un effet. Bon, enfin, c'est difficile de faire des expériences pour savoir si sur l'homme, coucou monsieur, est-ce que vous voulez que je vous implante ? Pas vraiment facile à faire ça non plus. Donc on a des éléments de labo, plus ou moins transposables, souvent assez transposables, qui montrent que quand on injecte tel ou tel truc, ça produit des lésions sur les animaux. Et puis après, il y a des éléments statistiques. Et les éléments statistiques, c'est long, ça demande du temps, mais ça établit des résultats qui sont quand même relativement fiables. C'est-à-dire, quand on sait que dans telle profession, il y a un cancer qui apparaît plus que d'autres, voilà. Moi, j'en ai vu sur les agriculteurs, disons que les agriculteurs ont moins de cancers que les autres. Ce qui n'est pas forcément faux,
parce que l'environnement n'est pas le même. Après, il faut regarder cancer par cancer. Et là, quand sur un cancer donné, on voit que les agriculteurs en ont plus, on peut se poser un peu des questions sur ce qu'il a produit. Donc tout ça demande. C'est normal que ça fasse de la polémique, c'est normal que ça soit compliqué à établir, parce que c'est de la science un peu complexe et tout. Au bout du compte, oui, on sait qu'on envoie des produits qui posent des problèmes pour la santé dans la nature. Il y a un très bon test quand même, c'est l'ARS, les agences régionales de santé, qui interviennent sur la qualité de l'eau. Et quand l'ARS dit, écoutez, il y a du métolachlore, c'est le fameux métabolite là, qui vient d'apparaître et qu'on trouve partout, il y a du métolachlore dans l'eau que vous prélevez, il faut la traiter avant de vendre votre eau et de la considérer comme potable, on peut raisonnablement considérer que s'ils demandent qu'on l'enlève, c'est parce que c'est pas très très bon pour la santé. Voilà, bon. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments où c'est pas véritablement contestable au point où on en est, qu'il y a des effets négatifs sur la santé. Alors après, j'avais entendu, alors pas sur les pesticides, mais sur le nitrate, il y a eu deux ou trois propagandistes qu'on a vus partout, mais il y a une dizaine d'années, qui venaient expliquer que puisque le nitrate c'était bon pour la salade, puisque ça les faisait pousser, ça devait pas être mauvais non plus pour les bébés, et que ça allait les aider à pousser. Bon, ils ont été condamnés ceux-là quand même. Hein. C'est passé, on en a discuté, ça s'est arrêté. Donc voilà, du point de vue scientifique, du point de vue de la littérature scientifique, il n'y a pas de doute que grosso modo, sur toutes les molécules qu'on envoie, il y en a quand même beaucoup qui sont effectivement CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Alors bon, deux débats. Hein. Celui sur le métolachlore, je crois pas qu'il y en ait en ce moment. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que c'est effectivement toxique et que c'est pas une bonne idée de l'avoir réintroduit. Sur les machins qu'il y avait sur les betteraves, là, je me souviens plus le nom précis, là, sur les abeilles.
Le gaucho.
Ceux qui atteignaient leur système nerveux, il n'y a pas trop de doute que ça l'atteint aussi. Est-ce que ça a des effets sur les humains? Ça pourrait être. Mais en tout cas, l'effet sur les abeilles, je pense que plus personne ne le conteste. Donc voilà, on a dit glyphosate. Glyphosate, alors il y a des espèces de batailles d'experts qui se caractérisent quand même assez souvent sur le fait que les éléments favorables ont été établis par des experts qui eux-mêmes étaient un peu liés à l'industrie. Toutes ces questions d'interpénétration entre le fait qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de recherche indépendante et que donc souvent les chercheurs qu'on va chercher sont des gens qui travaillent sur la molécule elle-même et donc dans les éléments de production et qu'ils ont forcément un avis un tout petit peu décalé. Une fois qu'on a mis tous ces paquets-là, qui sont des vrais sujets de société, en gros, et sans rentrer dans les détails, oui, les pesticides sont dangereux pour la santé humaine.
Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM c'est bon pour la santé. Le maïs OGM c'est bon pour la santé. Ouais. Pour une fois qu'un truc est total, non sélectif et efficace. Toi, il faut encore que tu râles, tout ça pour faire des tortillas. Alors qu'au beau milieu d'un champ, une mauvaise herbe repentie me confiait d'un air confiant, c'est bon de faner pour sa patrie. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM c'est bon pour la santé. Le maïs OGM c'est bon pour la santé. Ouais. Completely safe for consumer, nothing to worry about. Y'a pas péril en la demeure, je comprends pas pourquoi tu doutes. Alors qu'au beau milieu d'un champ, j'ai rencontré un ver de terre qui chantait en agonisant un petit message publicitaire. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui, je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le Le maïs OGM, c'est bon pour la santé.
D'un sujet à l'autre, du maïs OGM de la Parisienne libérée, on en revient à la qualité de l'eau douce, toujours avec Gilles Deguet.
Ouais.
Il y a des tas de molécules aussi qui restent dans l'eau, sur le point précis des œstrogènes et des molécules qu'on trouve dans les pilules contraceptives. Apparemment, il y a de ces molécules qui ne se détruisent pas, qui ne se dégradent pas et qui restent dans le cycle de l'eau. Et alors, le matin, mal réveillé, j'allume la radio, puis alors j'entends des histoires de poissons qui ont changé de sexe. Alors, c'est peut-être là que je vais te faire ricaner, de nouvelles générations où on retrouverait des épidémies de micropénis, mais bon, que ça aurait un impact aussi. Est-ce qu'on est dans le mutagène? Est-ce que j'ai mal entendu ce que j'ai entendu ou ce que j'ai cru entendre? Juste sur ce problème donc des œstrogènes et de la pilule contraceptive.
Premièrement, sur œstrogène, pilule contraceptive, honnêtement, je n'ai pas suffisamment travaillé pour parler précisément de ça. Sur la question des hormones, plus généralement, deux produits qu'on prendrait, notamment pour la santé humaine, et qui pourraient poser problème, je pense que c'est sûr qu'on en a retrouvé dans l'eau. C'est sûr que les agents de l'eau considèrent que c'est des pollutions considérées comme naissantes, comme nouvelles, qu'il faut étudier et qu'il faut combattre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes les pollutions médicamenteuses, et donc dedans aussi la pilule contraceptive, font partie d'éléments qui sont pris très au sérieux, comme des pollutions à aller regarder. Les expériences qui sont redonnées, les questions d'espèces dans lesquelles la détermination sexuée peut être perturbée, peut être retardée, etc. Je crois que les exemples existent. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Les questions de taux de fertilité, celles-là sont aussi des éléments extrêmement sérieux, hein, c'est-à-dire des études de sperme sur des grandes populations avec un nombre de spermatozoïdes plus ou moins élevé, la tendance à la baisse, je pense qu'elle est avérée, qu'elle est vraisemblablement environnementale, et que donc, oui, il faut les prendre extrêmement au sérieux. Mais j'ai resté là, quoi, hein, c'est-à-dire, c'est clair que on ne se trompe pas si on dit que c'est un problème. Après, quels sont les effets précis? Comment c'est, est-ce que telle pilule en produit plus, en produit moins, etc. Parce que je sais que ça fait partie d'éléments du débat. Est-ce qu'on peut les traiter dans les stations d'épuration? Parce que peut-être qu'à un moment, on sera obligé de le faire. Où on en est? C'est sûr qu'on n'en est qu'à des éléments totalement de début de l'analyse et de l'intervention. Mais pour autant, moi, je ne sais pas où on en est. Je l'ai dit déjà deux fois. Si je ne sais pas, je ne dis pas que je sais. Je peux donner que le contexte. Le contexte, c'est oui, il faut l'analyser. Et oui, il y a déjà des stations d'épuration qui se posent des questions, qui expérimentent un certain nombre d'éléments. Et ça fait partie, en tout cas, ça fait partie du programme de l'Agence de l'eau, ça c'est sûr, au chapitre des pollutions nouvelles, les micro-pollutions. Enfin, oui, c'est une question qui est posée. Ça, c'est clair. Et ça a les conséquences que tu peux avoir indiquées. Mais il y a quand même pas mal d'espèces chez qui le sexe se détermine assez tardivement, etc. Et tout. Donc, on peut imaginer que ça puisse intervenir de façon... sur les questions de malformation, ça, c'est sur le mutagène et le reprotoxique. C'est comment la reproduction est atteinte par un certain nombre de produits. Et ces éléments-là, hein, c'est le R de CMR, ces éléments-là sont attestés pour un certain nombre de produits, il n'y a aucun doute. L'agent orange, qui était une dioxine, hein, sur une très large échelle, on sait qu'il y a eu des problèmes de reproduction avec des phénomènes totalement anormaux, avec des naissances.
Alors on rappelle, hein, l'agent orange était cette arme de guerre utilisée par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. C'était un défoliant destiné à éradiquer la jungle dans laquelle se cachaient les combattants vietnamiens. C'était fabriqué par Monsanto, cet agent orange, hein, me semble-t-il. Et apparemment, il semble que c'est à peu près les mêmes molécules que le Roundup, également fabriqué par Monsanto.
L'agent orange, c'était une dioxine, ça oui. Et donc, c'est à peu près le même produit que ce qui a été libéré à Seveso. La catastrophe qui sert de référence, puisque maintenant on classe les usines dangereuses suivant quelles sont Seveso 1, Seveso 2, etc. Et tout. Donc oui, c'était le même produit.
Ou Roundup, les deux fabriqués par Monsanto quand même.
Oui, par Bayer maintenant.
Oui, hein,
puisque c'est eux qui l'ont acheté.
Bayer, c'est ceux qui fabriquaient le Zyklon B. Hein.
C'est un état de fait que là, c'est toujours facile, mais bien sûr que, mais comme pas mal d'éléments industriels,
la chimie qui s'est développée, elle a été aussi en partie poussée par le fait qu'on a recherché des armes de guerre chimiques, oui, bien sûr. Et c'est souvent des molécules qui étaient les mêmes. Alors, dans le cas de la dioxine, c'était à peu près clair, parce que l'agent orange, c'était vraiment carrément une dioxine. Mais il y a évidemment des liens extrêmement forts et tout. Bon, c'est un des paradoxes du progrès technologique. Il s'est quand même pas mal développé à partir des éléments de guerre. Mais donc, oui, il y a cette question-là. Mais en gros, il y a certainement des produits qui sont extrêmement toxiques, qui n'ont pas été utilisés comme armes de guerre et qui, pour autant, sont quand même extrêmement toxiques et tout. Je veux dire, c'est pas seulement parce que c'est des armes de guerre qui sont toxiques, c'est plutôt parce qu'elles sont toxiques qu'on les a utilisées comme armes de guerre.
Each aircraft we carry normally 6,000 pounds of bombs, and it's absolutely outstanding. Today you will see bombs and napalm.
Beaver 2-3, full emergency over. Roger, go ahead.
Okay, right down there. Okay, napalm now. There it goes. Ah, look at it burn. Look at it burn.
Gilles, on va bientôt arriver à la fin de cet entretien autour du très large thème de la qualité de l'eau. Quel pourrait être un mot de conclusion ?
Plutôt un mot de réflexion sur la question. Tu m'as posé au moins deux fois ou trois fois la question de la santé humaine dans la question de ces produits.
Anthropomorphisme, quand tu nous tiens. Je suis un sapiens, donc je vois le monde depuis ma petite fenêtre de sapiens.
D'accord. Alors, je vais le dire toujours d'un point de vue de sapiens. Ben, je vais reprendre sur la question des nitrates. Les nitrates, on a commencé à donner des normes par rapport à la consommation humaine. Et puis, en gros, quand on était en dessous de 50 mg par litre, ça passait. Si on passait au-dessus de 60, on allait chercher une source un peu à côté qui était 40, on mélangeait celle de 60, celle de 30, on tombait sur du 45-50 et ça passait et tout. Et donc, sur une norme, avec ce que ça a toujours d'arbitraire, une norme, on s'est fixé cette norme-là et en gros, tant qu'on était en dessous de 50, la vie était belle, quoi. Tout va bien. Et ce qu'on découvre, c'est que en dessous de 50, on ramasse des algues vertes. En dessous de 50, on ramasse des proliférations qui font que les milieux sont pourris, eutrophes, etc. Et tout. Et là, la question, c'est, même pour l'Homo sapiens, est-ce que ce qui compte, c'est est-ce qu'il l'empoisonne directement ? Oui, bien sûr, surtout. Mais même s'il n'est pas empoisonné directement, si ça bousille tout son écosystème et qu'il ne peut plus envoyer son gamin se baigner sur la plage sans qu'il aille patauger dans un machin qui dégage des gaz de toutes sortes, est-ce que pour autant ça ne l'atteint pas directement dans sa santé, mais est-ce que ce n'est pas absolument fondamental, y compris pour sa survie ? Et donc c'est ça la question qui, moi, m'intéresse. C'est, on va reprendre sur le débat du début. Si on réfléchit intégralement sur un intérêt direct humain, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ben, je pense que c'est pas vrai. Ce qui nous tue pas et qui bousille tout ce qui est autour nous rend beaucoup, 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 beaucoup plus faibles. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire que on est dans un univers qui doit se porter bien lui pour que nous, pas pour que nous, qui doit se porter bien lui, point final. Mais de plus, si jamais il ne se porte pas bien, alors on peut se faire du souci. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut le voir comme un but en soi. Et c'est ça, réellement, se poser la question de l'avenir de l'humanité. C'est pas mal comme conclusion, ça. Hein,
ça envoie. Voilà.
Sur cette hypothèse d'un éventuel avenir de l'humanité, et rien ne semble moins sûr, que s'achève cette nouvelle discussion avec Gilles Deguet, représentant de France Nature Environnement, membre du comité de bassin Loire-Bretagne. Gilles, qu'on retrouvera donc au prochain épisode de cette saga Eau Secours. Et après les questions de la qualité de l'eau douce, de sa pénurie, on évoquera la prochaine fois le problème des crues et des inondations. Émission et série à réécouter sur notre site Polémix et la voix off.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM.